Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Dans les Actes des Apôtres, si vous relisez les premiers chapitres, 2, 3 en particulier, on voit que les apôtres sont passés du stade de disciples, où ils étaient réunis au Cénacle, là, avec la Vierge Marie, à l'écoute de la Vierge Marie qui leur apportait toutes les paroles du Christ. Ils sont passés du stade de disciples à celui d'apôtres après la Pentecôte. Et ils se sont mis, après la Pentecôte, à prononcer un euogélion, comme on dit en grec, c'est-à-dire un évangile. La traduction littérale, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils ont fait cette expérience personnelle, ils avaient cette conscience personnelle que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il était mort et qu'il était ressuscité. C'est ce qu'on appelle le kérigme. Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, c'est au numéro 120 pour ceux qui voudraient aller voir plus précisément, nous dit « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et nous ne disons plus « nous sommes disciples et missionnaires », mais toujours, nous sommes disciples missionnaires. » C'est-à-dire que le pape François réunit vraiment les deux termes. Donc, il y a cette notion d'être disciple, c'est-à-dire à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, et missionnaire, cette dimension d'annonce et d'envoi. Et au numéro 121, il poursuit un peu plus loin, « La joie de l'Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. Cette joie est un signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit. » Donc il y a à la fois la joie d'être le disciple et à la fois la joie liée à la mission, liée à l'annonce. Et nous qui sommes couples réunis pour cette journée, est-ce que nous avons une bonne nouvelle à annoncer, une bonne nouvelle qui donne la joie? Première question à nous poser, je pense. Quand on regarde après de tout ce qui écrit le magistère de l'Église, le magistère de l'Église et cette interprétation de la parole de Dieu faite par l'Église, il est bien dit que c'est le baptême que chaque membre du peuple de Dieu reçoit qui le fait disciple missionnaire. Et particulièrement à partir de Vatican II ou dans les différentes constitutions, on perçoit bien cet élan, cet appel à l'élan missionnaire. Et il est même dit, quelque part, « Les fidèles laïcs participent pour leur part à la triple fonction de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi, et qui se poursuit dans toute l'Église, dans tout le peuple, parce que tout le peuple entier participe à cette mission. Et dans tous les baptisés, du premier au dernier, donc du pape jusque nous, voilà, moi, le dernier, enfin, j'ai pas tout à fait le dernier, il y en a encore après moi, sans doute, mais tous les baptisés sont agis par la force sanctifiante de l'Esprit-Saint qui incite à évangéliser. Donc le baptême, c'est cette grâce qui, en laquelle s'origine notre appel à la mission. C'est-à-dire qu'on n'est pas baptisé parce qu'on a reçu quelque chose. Non, mais dans le baptême est contenu cet appel de l'Esprit-Saint à annoncer Jésus-Christ. Et quand on regarde encore une fois dans l'Écriture sainte, dans les Actes des Apôtres, le discours de ces disciples missionnaires, on l'a dit, et ça va être le thème de tout ce congrès mission, c'est un discours que l'on appelle kérigmatique. Ce n'est pas un gros mot, ça vient du grec, qui veut dire proclamation à voix haute. Et cette annonce que Jésus-Christ est mort, est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu, c'est le cœur du discours des apôtres dans les Actes des Apôtres. En particulier, si on regarde plus particulièrement le discours de Pierre, là, dans Acte 2, on voit que c'est un discours qui est assez bref, donc pas trop long. Donc je vais essayer de faire court aujourd'hui. Ça va être difficile, excusez-moi, mais je vais faire un effort. Mais c'est un discours qui est inséré dans la vie. C'est-à-dire qu'il parle des miracles, il parle de signes, il parle de prodiges faits par Jésus-Christ et faits par aussi les premiers apôtres. Si vous lisez l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, vous voyez en parallèle, finalement, que ce que Jésus a fait, les apôtres le font après. Et puis, c'est un discours qui est enraciné dans la parole de Dieu. Le discours de Pierre, d'ailleurs, c'est tout un commentaire aussi de la parole de Dieu, un rappel de la prophétie du prophète Joël, et puis un commentaire du psaume 15. Et c'est un discours qui est dit performatif, c'est-à-dire qu'il est transformant. D'ailleurs, on voit après le discours de Pierre à la Pentecôte, 3000 personnes se joignent à la communauté. Ça fait rêver quand même. Imaginez que je parle et 3000 personnes rentrent dans l'église. Bon, je suis loin. Pardon, Seigneur. Mais en tout cas, ce kérigme, cette annonce, ce cœur, c'est vraiment le cœur du message du pape François pour aujourd'hui dans Evangelii Gaudium. Cette première annonce, dit-il, a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout renouveau ecclésial. Et il ne peut y avoir d'évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur. Et donc toute cette dimension missionnaire, en fait, quand on regarde voilà, dans les discours de l'Église, l'Écriture, c'est faire pénétrer le divin dans la pâte humaine. Parce que l'apostolat des chrétiens, c'est d'abord un apostolat d'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, sa parole se fait chair, et sa parole doit s'incarner dans la vie des hommes.
On va voir un petit peu l'historique, là. Les couples missionnaires, est-ce que c'est nouveau et d'où ça vient? Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a un peu une émergence des couples missionnaires, et c'est un fruit de l'Esprit Saint pour notre monde. Et c'est comme si un peu on redécouvrait cette mission d'évangélisation propre des époux. Après, il y a eu un certain nombre de siècles d'oubli. Même si la mission de transmission de la foi des parents aux enfants, elle est ancienne dans la tradition de l'Église. Mais c'est vrai que jusque dans les années 1940-50, on ne parlait pas de spiritualité conjugale, ni même de sainteté conjugale. Il y a eu le père Caffarel qui a été un pionnier dans ce domaine-là. Mais auparavant, la primauté était donnée à la vie consacrée, célibataire, comme voie essentielle de sainteté. Et les époux étaient reconnus saints quand ils embrassaient la vie religieuse. C'est-à-dire souvent, il y en avait un qui devenait veuf ou veuve, qui entrait dans la vie religieuse et qui devenait saint. Et pour la sainteté des couples, vous le savez sans doute, il a fallu attendre 1981 pour la première béatification d'un couple en tant que couple par Saint Jean-Paul II, un couple italien, Luigi et Maria Beltrame Quattrocci. Et Jean-Paul II, il était justement en train de délivrer mercredi après mercredi ses catéchèses sur la théologie du corps, au même moment. Ces catéchèses qui ont permis de redécouvrir d'une manière nouvelle le beau projet de Dieu sur l'amour humain, sur le sens du corps, la vérité de son langage, la profondeur du sacrement de mariage et puis du don total de soi. Et puis en 2015, il y a eu la première canonisation d'un saint couple, Louis et Zélie, canonisés non pas parce qu'ils étaient parents de Sainte Thérèse, mais en tant que couple, et fêtaient le jour anniversaire de leur mariage. Alors pendant ce XXe siècle, il y a eu aussi l'émergence d'un vent de Pentecôte sur toute l'Église, avec le renouveau charismatique et puis l'émergence de la nouvelle évangélisation. Et à Pentecôte 2019, dans un rassemblement du renouveau à Rome, le pape François demander aux participants de partager le baptême dans l'Esprit Saint à toute l'Église pour que se transmette une grâce de Pentecôte à toute l'Église. C'est la même lignée des actes des apôtres, Pentecôte et l'annonce charismatique, comme Jean-Paul en parlait. Parce que le pape François, il fonde toute la pastorale missionnaire de l'Église sur cette annonce du kérigme, à travers le témoignage et la prédication. Alors, en fait, depuis Vatican II, il y a eu de nombreuses étapes de cette prise de conscience de la nécessité de cet appel à la mission du couple. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais quelques étapes pour rapidement. Vatican II évoque surtout le témoignage de vie et de charité des époux ou la transmission de la foi des parents aux enfants. Paul VI, il insistera sur cette nécessaire évangélisation des enfants par les parents, mais aussi des autres familles. Et puis Paul VI, il va publier en 75 l'évangélisation dans le monde moderne qui va être le fondement de la nouvelle évangélisation. Alors Jean-Paul II, il va comme franchir une étape parce qu'il va parler de la famille chrétienne comme communauté qui annonce l'évangile. Voilà. Et alors aussi au travers de l'éducation des enfants, mais en invitant à témoigner auprès de tous ceux qui cherchent la vérité et de tous ceux qui sont loin. Et puis, il fonde également au plan théologique et biblique ce qu'il dénomme le ministère authentique des époux. Et jusque-là, c'était réservé aux hommes ordonnés. Ça, c'est une phrase de Saint Jean-Paul II qu'on reprendra après. Le sacrement de mariage, enraciné dans le baptême et la confirmation, établit les époux et parents comme témoins du Christ jusqu'aux confins de la terre et véritables missionnaires de l'amour et de la vie. On reviendra là-dessus tout à l'heure parce que, voilà, pour découvrir comment nous pouvons être véritables missionnaires de l'amour et de la vie en couple. C'est aussi Saint Jean-Paul II qui a proposé Priscille et Aquila comme modèle du couple évangélisateur, voilà, comme avec le compagnonnage apostolique avec Saint Paul. Et puis, il relevait que l'avenir de l'évangélisation dépend en grande partie des couples et des familles. Hein, il plaçait du coup le couple au cœur de l'enjeu missionnaire de l'Église, et puis ses successeurs développeront cela. Alors Benoît XVI, avec lui, la nouvelle évangélisation, ça a été la priorité pastorale de l'Église, hein, avec le synode des évêques à Rome qui lui a été consacré en 2012. Et puis il soulignera lors de l'ouverture de ce synode que le mariage n'est plus simplement objet, mais désormais sujet de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire que les couples dans le mariage sont désormais considérés comme des acteurs missionnaires à part entière. Voilà, et le pape François, eh bien, depuis son élection, les termes qu'il emploie prioritairement, c'est mission, kérigme, miséricorde, évangélisation. Hein. Et ce sont des mots-clés de la joie de l'Évangile. Voilà. Et puis, dans la suite du synode de 2012, en 2014 et 2015, il y a eu deux synodes autour du mariage, de la famille et de l'évangélisation. Et les deux rapports insistaient sur la mobilisation missionnaire des couples afin qu'ils soient en première ligne dans tous les domaines de la sexualité, de l'amour, de la conjugalité, de la famille. Voilà, et puis après, il y a eu Amoris Laetitia, hein, où le pape nous invite à regarder chaque couple avec amour, avec patience et miséricorde, hein, tout en les invitant à accueillir et vivre le salut. Voilà. Et il souligne combien le Christ peut sauver la famille et le mariage, peut guérir et transformer les cœurs blessés et rendre accessible et désirable le mariage chrétien. Voilà. Puis après, il y a eu cet appel que recitait Jean-Paul, « J'invite les couples à la mission hein. ». Et tout cela, ça s'insère dans cet appel à être coopérateur de la fécondité de l'Église elle-même. Voilà, c'est les couples missionnaires, eh bien, s'insèrent plus largement dans la transformation missionnaire de l'Église qu'appelle le pape François, qui est à la fois un chemin de conversion personnelle et de toute l'Église, hein, un chemin de fécondité pour notre Église et pour le monde.
Alors, on va essayer de voir maintenant quelles peuvent être les spécificités du couple missionnaire. Alors, pourquoi se poser cette question, d'abord ? Parce qu'on pourrait se dire que notre couple est missionnaire parce que nous sommes chacun engagés dans une activité pour l'Église. Madame fait le caté, Hélène fait le caté à la paroisse par exemple, et monsieur peut être au compte de la paroisse, c'est souvent le cas comme ça, enfin c'est pas mon cas, je vous rassure, tant mieux pour la paroisse d'ailleurs. Ou bien même un des deux membres du couple peut être salarié de l'Église ou salarié de la paroisse, et c'est beau et c'est bien. Et puis, les paroisses ont bien de la chance d'avoir des couples qui sont à l'œuvre. On pourrait dire aussi que notre couple est missionnaire parce que ensemble, on fait des choses pour le bon Dieu, on fait des choses pour la paroisse, pour l'Église. Ensemble, on peut faire le caté. Ensemble, on peut faire préparation au mariage, au baptême. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité plus grande de couple missionnaire? Car le couple est une seule âme, une seule chair. Et le Christ vit au milieu de nous dans le sacrement de mariage. Saint Jean-Paul II, d'ailleurs, parle du couple comme un être à part entière. Et c'est-à-dire que c'est plus que l'addition de deux compétences ou que l'addition de deux personnes de bonne volonté en action. C'est plus qu'un homme et une femme qui s'entendent bien pour annoncer l'Évangile. Parce que dans la mission, c'est cet être conjugal qui vient de Dieu et qui se manifeste. C'est la vocation conjugale la plus profonde du couple que de donner à voir le visage et la présence de Dieu par la communion dans la différence et les complémentarités qui sont les nôtres. C'est-à-dire, c'est manifester Dieu, la Trinité qui est incarnée dans notre couple, la manifester au monde. Alors évidemment, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Le sacrement de mariage, en fait, c'est le fondement de cet appel missionnaire. On pourrait faire comme un parallèle, si vous voulez, entre le baptême, qui est le fondement missionnaire de l'appel de pour chaque baptisé, et le sacrement de mariage, c'est comme le fondement de cet appel missionnaire des couples. Parce que le pape François nous dit, il a dit d'ailleurs dans un discours, dont j'ai la référence exacte pour ceux qui seraient intéressés, que c'est une véritable vocation comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. C'est fort hein, de dire ça. Le mariage est une véritable vocation comme le sont le sacerdoce ou la vie religieuse. Il reprend tout ce que a dit l'Église auparavant, et en particulier Saint Jean-Paul II, dans ses catéchèses sur la théologie du corps. Pourquoi est-ce que c'est une même vocation? Parce que, in fine, il n'y a qu'une seule vocation pour la personne humaine, c'est le don. C'est le don de soi, un don de soi total et définitif. C'est la vocation de toute personne, et certains l'expérimentent, la vivent, dans le don de soi total et définitif à Dieu, dans la vie consacrée, et d'autres l'expérimentent dans le don de soi total et définitif dans le mariage. Et c'est pour cela que Saint Jean-Paul II, pape François, disent que c'est une même vocation au fond. Ça s'origine dans ce don total des personnes à Dieu, et dans le mariage, on est donné à Dieu aussi, évidemment. Voilà. Et donc, le mariage signifie cette communion personnelle, interpersonnelle, à laquelle tout le monde est appelé. C'est un peu comme si, l'image que je prendrais, c'est que comme si la vie consacrée, les religieux, signifie aujourd'hui un peu de ce à quoi nous sommes appelés, et le mariage signifie un peu aujourd'hui ce à quoi nous sommes appelés. C'est-à-dire que la vie consacrée, c'est un peu l'expérimentation dès aujourd'hui de ce à quoi nous sommes appelés, qui est montré par la communion de deux personnes qui sont très différentes, qui sont vraiment parfois grands, petits, etc., vous voyez. Mais il y a ce mystère de la communion interpersonnelle qui est entre nous et qui est donnée et entretenue par le sacrement de mariage. Et donc, cette réalité missionnaire du couple, elle est particulièrement donnée au moment du sacrement de mariage, un peu comme, vous savez, Pentecôte, appel missionnaire. Eh bien, on peut considérer, en faisant ce parallèle, la Pentecôte, pour le couple, c'est le sacrement de mariage avec cet appel missionnaire. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que si vous regardez aujourd'hui le rituel de bénédiction lors du sacrement de mariage, c'est comme une véritable épiclèse, comme une prière d'effusion sur les couples. Il y a 6 prières de bénédiction dans le rituel du mariage. Par exemple, dans la prière numéro 1, il est dit « Tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. » La mission du couple, c'est de révéler cette unité profonde de la Trinité, c'est de révéler cette image de Dieu au monde. Ou dans la prière numéro 6, il est dit « Béni sois-tu qui envoies ton esprit pour associer tes enfants à la mission de ton fils. » C'est fort quand même. C'est-à-dire que c'est une prière qui est faite sur les époux, pour transformer ces époux non plus en un assemblage, un couple, je dirais, mais en une réalité missionnaire, une église domestique, une ecclésiola. Et que ces couples soient les signes, en fait, lumineux de la présence du Christ et de la présence de Dieu qui est possible au cœur du monde. C'est fort de dire ça, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est possible au cœur du monde, entre deux personnes. Et comme le dit le pape François dans Amoris Laetitia, numéro 121, précisément, « Pour rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec le Christ, avec lequel le Christ aime son Église, tout en continuant à donner sa vie pour elle. »
Alors, quelle mission pour le couple missionnaire? Alors, il y a 3 composantes à cette mission du couple. On pourrait dire qu'il y a une mission déjà interne au couple, qui est de grandir dans l'image et la ressemblance du Dieu trinitaire. Grandir dans la communion, grandir dans le don de soi, grandir dans le pardon, dans l'acceptation de l'autre, dans sa différence profonde. Et puis, il y a deux missions comme externes au couple. Être témoin rayonnant de l'amour intégral, qu'on puisse dire « voyez de quel amour il s'aime », d'un amour intégral. Et puis, l'annonce de cet amour intégral. Et là, le champ des actions de cette annonce est très large. Tu en citais quelques-unes, hein. Ça peut être tout ce qui est autour des couples, la préparation au mariage, l'éducation au bel amour, l'accompagnement des couples, les missions en paroisse, les missions auprès des plus pauvres, plein d'autres choses. Cette première mission interne au couple, elle est fondamentale. Notre ancien évêque de Lourdes, Monseigneur Brouvet, nous le rappelait souvent, il disait... Votre première mission de couple, c'est de vous aimer et de croître dans la communion. Et du coup, tout en nous aimant, de montrer au monde combien Dieu aime l'humanité et aime chacun. Il y a plus de 25 ans, on faisait une retraite de couple et le prédicateur, à un moment donné, nous a dit « Vous, les chrétiens mariés, la première chose que le bon Dieu vous demandera quand vous arriverez au ciel, c'est... Qu'as-tu fait de ton conjoint ? Puis après, qu'as-tu fait de l'âme de ton conjoint ? Oui, qu'as-tu fait de l'âme de tes enfants ? Qu'as-tu fait de l'âme des autres ? Et pour moi, ça a été un espèce d'électrochoc. C'était important, notre couple était important, mais là, c'est comme si j'avais reçu en plein cœur, mais ma première mission, c'est d'aimer, bien sûr, Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, mais d'aimer mon conjoint et de grandir dans la communion mutuelle. Et c'est devenu quelque chose comme prioritaire, comme cela ne l'était pas auparavant aussi gravé en moi. Notre mission fondamentale de couple, donc, c'est de puiser à l'amour du cœur de Jésus, de nous aimer mutuellement et d'en rayonner dans le monde. Hein, c'est de vivre de l'Esprit Saint, fruit de l'amour du Père et du Fils, dans notre vie conjugale et familiale et autour. Et même si notre amour est blessé, hein, comme l'est toute relation et tout amour, eh bien, par petits pas et avec la grâce de Dieu, cet amour va rayonner dans le monde, hein, de l'amour trinitaire et de la miséricorde de Jésus. Pour les deux autres missions, le pape François encourageait cela dès 2015 dans son discours « J'appelle les couples à la mission ». Il disait « Vous êtes déjà missionnaires par le rayonnement de votre vie de famille auprès de vos réseaux d'amitié, de relations et même au-delà ». Car une famille heureuse, équilibrée, habitée de la présence de Dieu, parle d'elle-même de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Bon, moi, j'ajouterais que même si parfois notre famille, elle n'est pas tout à fait heureuse, pas tout à fait équilibrée, eh bien, elle rayonne. Voilà. Et il invitait aussi à accompagner les couples, les soutenir, soutenir les familles blessées, à être instrument de miséricorde du Christ. Et de l'Église, voilà, et aussi par l'annonce, bien sûr, kérigmatique par les Jean-Paul. Voilà, cette annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile du mariage et de la famille. Alors, bien sûr, il y a un équilibre à trouver, hein, entre prendre soin de son couple et faire grandir la communion, et puis répondre à l'appel missionnaire de notre couple. Et des ajustements à faire, mais ça, je crois que ça sera les propos du topo suivant. Et puis, il peut y avoir des peurs, ça peut être aussi, on en reparlera, hein, par rapport à cette mission d'évangélisation et d'annonce en couple. Hein, mais comme vous le savez, enfin, le pape François disait, le Seigneur est venu chercher les pécheurs et pas les parfaits. Hein, et ou encore, Dieu n'appelle pas les gens compétents, mais il rend compétents ceux qu'il appelle. Et il leur donne sa joie. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux couples qui témoignent de combien annoncer le Christ ensemble est source de joie et d'amour entre eux, et facteur de croissance dans la communion.
Alors nous devons être témoins de l'amour, mais je voudrais qu'on approfondisse un peu plus ensemble cette réflexion, c'est témoins de quel amour, en fait ? De quel amour devons-nous être témoins ? Hélène a parlé d'amour intégral, et... l'annonce du kérigme, ça concerne tous les baptisés, chacun que nous sommes, mais peut-être que, en tant que couple, nous avons à annoncer l'amour. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, au nom de l'amour, on peut tout faire. peut faire des trucs d'ailleurs. On se demande vraiment si c'est de l'amour. Enfin bon, peu importe. Mais et donc peut-être que nous avons une mission en tant que couple missionnaire, d'être témoins et d'être les héros aux deux sens du mot. Voyez, les héros. Voyez l'annonce, voilà. Et puis parfois c'est héroïque, indiscutablement, de chercher à annoncer et témoigner de l'unité et de l'intégralité de quatre dimensions de l'amour. Ces quatre dimensions, je les emprunte à Karol Wojtyla avant qu'il soit nommé pape. Il a écrit un livre savant qui s'appelle « Amour et responsabilité ». Si vraiment vous voulez dormir, vous le prenez le soir. Mais c'est quand même très très intéressant. Ces quatre dimensions, c'est la dimension affective, psychique, émotionnelle de l'amour. La deuxième dimension, c'est la dimension sensuelle et corporelle de l'amour. La troisième, c'est la dimension personnelle, c'est-à-dire qui engage la personne dans son intelligence et sa volonté. Et enfin, une dimension que l'on pourrait qualifier transcendantale, c'est-à-dire qui manifeste ce désir de connaître Dieu et d'aimer Dieu. Et il est important de rappeler ces quatre dimensions et de témoigner de ces quatre dimensions dans l'unité, parce qu'on peut témoigner juste de la dimension émotionnelle, mais on sait que l'émotion, c'est nécessaire évidemment à l'amour, parce que nous ne sommes pas des icebergs qui se rencontrent dans l'océan Arctique. Vous voyez, il y a cette dimension sensuelle, corporelle, l'émotion qui est nécessaire, mais ça ne résume pas l'amour, ce que c'est. Parce qu'il y a toujours besoin de comprendre qu'il y a un plus grand que nous, qui nous unit, vous voyez. Nous ne sommes pas un couple parfait, je vous rassure. Il nous arrive même de nous engueuler, assez régulièrement. Mais on se rend bien compte que nous sommes ensemble depuis 38 ans. En général, c'est là que je me gourre, donc je fais gaffe. Mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quoi, qui nous unit. Eh bien, c'est cette dimension transcendantale qui est importante à prendre en compte. Et puis cette dimension personnelle, parce qu'il y a un acte d'intelligence et de volonté à poser pour aimer. Parce que parfois, quand il n'y a pas l'émotion, vous voyez, quand il n'y a pas la sensation, etc., eh bien, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, dont c'est la fête aujourd'hui d'ailleurs, qui dit « Je veux croire ce que je crois ». Vous voyez, il y a ces deux mouvements, c'est-à-dire qu'il y a un effort de la volonté pour croire, à un moment ou à un autre, parce que quand on n'est plus dans l'émotion, vous voyez, eh bien, il y a quand même cette intelligence de la volonté qui nous fait discerner quel est le bien que nous recherchons et de poser ces actes d'amour, ces actes de charité. Alors aujourd'hui, si on réduit l'amour uniquement à ces deux dimensions émotionnelles et corporelles, vous percevez bien qu'il en manque un bout, quoi. Enfin, qu'il manque quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de vocation au don, qui est la nôtre. Eh bien, cet amour intégral, c'est cela, c'est ces quatre dimensions de l'amour, et en particulier pour tout ce qui est la dimension corporelle. Là aussi, il y a une intégralité et une intégrité du don des personnes qui fait que amour et vie sont liés. Amour et transmission de la vie sont toujours liés. Et être apôtre, missionnaire de cet amour intégral, c'est aussi tenir compte de cela. Parce que on parle d'amour intégral parce qu'il intègre l'ensemble des dimensions émotionnelles, personnelles, transcendantes, et il intègre aussi la manière dont je suis créé en tant qu'homme ou la manière dont je suis créé en tant que femme, enfin pas moi, elle. Et c'est important aussi de se référer à ces dimensions de l'amour.
Voilà, Jean-Paul II expliquait justement que le sacrement de mariage établit les époux jusqu'aux confins de la terre comme véritables missionnaires de l'amour et de la vie. Et voilà, il nous semble que c'est un enjeu majeur pour notre époque d'être missionnaires de l'amour et de la vie. Hein. Nous sommes issus d'un don de vie et d'amour et faits profondément pour nous donner notre amant à travers notre corps, comme le disait Jean-Paul. Hein. Et dans le couple et dans la famille, nous pouvons aussi découvrir combien nous sommes un don les uns pour les autres et combien Dieu nous donne les uns aux autres. Et nous pouvons apprendre de plus en plus à accueillir notre époux ou notre épouse comme un don que Dieu nous fait. Accueillir l'intimité conjugale comme un don et notre corps comme le temple de l'esprit. Et la vie intime du couple, c'est un chemin de croissance qui part de là où nous en sommes, avec nos blessures et nos faiblesses, pour grandir de plus en plus dans un respect devant ce mystère de l'union des corps tel que créé par Dieu, hein, qui conjugue amour et vie, don et accueil, masculinité, féminité, désir et don, plaisir et joie. Et en chaque couple, il y a une aspiration à vivre de plus en plus unifié. Toutes les aspirations spirituelles et la réalité du don des corps. Et donc, voilà, être missionnaire de ce lien précieux entre l'amour et la vie, notamment dans l'intimité du couple, de l'unification du spirituel et du corporel, c'est certainement une mission aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures qui existent dans ce domaine, beaucoup d'incompréhension et de prise de distance avec la foi et avec Dieu. Et voilà, l'évangélisation de l'intimité conjugale a tout son sens aujourd'hui. Alors, on sait par expérience que tout n'est pas donné par avance, hein, et que l'amour intégral, c'est un chemin, hein, c'est un chemin de Pentecôte. Pentecôte, on aime bien ça parce que c'est des pentes et des côtes, donc ça va comme ça. Hein. Mais c'est un chemin avec l'Esprit Saint, chemin de Pentecôte.
Voilà. Voilà, on va finir par conclure, je vous rassure. Et on parlait d'une annonce kérigmatique depuis le départ, là. Nous vous proposons un kérigme de l'amour à annoncer en tant que couple missionnaire, un kérigme en trois points. Je dirais que le premier point, ce serait qu'il y a un beau projet de Dieu pour l'amour humain. Il y a un beau projet pour l'amour humain dans cet amour intégral dont nous en parlait, et qui est un projet du Père. Mais évidemment, c'est comme l'a dit Hélène, c'est un chemin de Pentecôte, vous voyez, des fois il y a des pentes, ça va, ça roule, des fois il y a des côtes, un col à franchir, voilà. Mais nous devons croire, et nous croyons, que cet amour humain qui est le nôtre aujourd'hui, il est racheté, il est transformé par Jésus le Christ. Parce que Jésus est mort pour nous, pour racheter aussi notre amour humain sur la croix. Et le troisième point, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas de chemin humain, je dirais, de chemin personnel sans l'Esprit Saint. Parce que c'est cet Esprit Saint qui nous invite à participer à ce projet du Père et du Fils. Je ne vais pas le dire, parce qu'il faut que je termine quand même. Et donc, cet amour, il est enraciné, vous voyez. Enraciné dans la parole, enraciné dans l'Esprit Saint. Et d'être témoin, d'être missionnaire de l'amour de Dieu, de beaux projets de Dieu pour le couple humain, eh bien, c'est une grâce aussi. Certains disent que c'est un booster pour l'amour du couple. Vous voyez, être témoin ensemble. Par exemple, avec Hélène, il nous arrive d'animer, en ce moment, on anime sur notre paroisse, quelque chose pour tout le monde, là, sur la théologie du corps, eh bien, c'est beau de se dire qu'on fait ça ensemble et que l'on annonce quelque chose de cet amour intégral. Et c'est à chaque fois une grande joie pour nous. Alors, avant, il y a quelques petits... normal, mais c'est la joie qui demeure, la joie du don de s'être donné ensemble. Et je vais vraiment terminer cette fois-ci. Je repensais, vous savez, l'évangile d'hier, là, qui était cet envoi en mission dans l'évangile de Saint-Luc, vous vous souvenez ? Je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ça fout les chocottes, hein ? Parce qu'on a probablement une vision, je dirais, je vous envoie comme les gigots au milieu des, loups. Et moi, j'ai été très édifié hier en lisant un commentaire de cet évangile dans Saint-Ambroise, un père de l'Église, et qui, moi, m'a... Et donc je vous partage ce que j'ai découvert hier soir, vous voyez, c'est que saint Ambroise dit que finalement, le bon pasteur ne saurait redouter les loups pour son troupeau. Ses disciples sont envoyés non pas pour être une proie, mais pour répandre la grâce. Il les envoie pour que se réalise la prophétie d'Isaïe, Isaïe 65, vous savez que vous connaissez. « Alors le loup et l'agneau paîtront ensemble ». Le lion et le bœuf mangeront de la paille, etc. Vous voyez, parce que le Christ n'envoie pas des gigots potentiels, bien ficelés, agréables à voir. Vous voyez, il envoie pour que l'on manifeste cette prophétie, qui est une prophétie de paix et une prophétie de joie. Amen. J'ai vraiment fini.
Merci Jean-Paul, Hélène, pour cet appel que vous avez fait résonner.
Voilà, bonjour à tous. Nous sommes Stéphanie et Jean-François Carillon. Voilà, on a 23 ans de mariage. On a bientôt notre 9e enfant qui va montrer le bout de son nez, qui va pas tarder à sortir. C'est pour ça que c'est à nouveau d'être assis. Voilà. Stéphanie est en lesté. On fait partie d'aucune communauté particulière, si ce n'est le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Voilà. Et en 2016, justement, notre évêque nous a demandé de venir habiter un petit sanctuaire marial du XVIe siècle, près de Tarbes. D'ailleurs, c'est l'ancien sanctuaire marial de Tarbes, avant que Lourdes n'écrase tout, n'éclipse tout au XIXe siècle. Et là, il y avait une communauté de pères vieillissantes qui ne pouvaient plus assumer la charge de ce sanctuaire-là. Donc il a eu l'intuition d'envoyer un couple, une famille, en mission. Et nous, aussi surprenant que ça puisse paraître, ben on a assez facilement dit oui. Parce que 4 années auparavant, en fait, pendant les étés, pendant à peu près 10 jours chaque été, on avait participé à une sorte de stage d'initiation missionnaire à Saint-Cyr-la-Popie, un des villages les plus touristiques du Lot, avec le curé du lieu. Et ça nous avait clairement, je ne vais pas développer tout ce qu'on avait appris, mais ça nous avait clairement préparé à la mission. Et donc c'était assez naturel pour nous de dire oui. Ouais, on était déjà des apprentis missionnaires et on était certain que le Seigneur nous attendait là et il nous avait déjà préparé en fait, même si on s'en rendait pas compte. Alors l'évêque nous a donné 3 volets pour cette mission. D'abord, la première déclinaison de la mission, c'est de donner le témoignage de la famille chrétienne comme église domestique. Ensuite, avoir le souci d'aller vers les personnes qui habitent dans le quartier autour de cette chapelle qui est en bordure de l'agglomération de Tarbes. Donc c'est déjà un peu la campagne, mais il y a quand même 130 maisons. Et donc aller vers les gens, ça c'est les rencontrer, c'est pas forcément évident. Et enfin, on est responsable de tout ce qui touche à l'animation du sanctuaire. On peut susciter des événements et puis on peut en accueillir aussi, voilà. Nous, on ne savait pas du tout ce que le Seigneur voulait pour ce lieu. On était par contre animés par la certitude que la mission, elle commençait par la prière et que c'était fondamental. Donc on a déjà prié dans la chapelle. Pour nous, c'était un cadeau énorme d'avoir la présence réelle, de pouvoir aller prier en pantoufles sans avoir à sortir de chez soi, puisque le couvent donne directement sur la chapelle. Ils sont imbriqués tous les deux. Et puis l'évêque lui-même ne savait pas exactement quelle était la mission, comment elle se développerait. Il nous parlait d'une aventure à tenter. Donc effectivement, c'était une sacrée aventure. Dès le début, on a eu pas mal de combats de tous les côtés. C'était assez impressionnant. Mais c'est vrai que le fait de le vivre à deux, c'était quelque chose qui nous donnait beaucoup de force. On pouvait jouer de nos complémentarités aussi, des perceptions, des situations un peu différentes. Et puis chacun, tour à tour, on peut aussi stimuler l'espérance, la confiance, la paix chez l'autre. Donc il y a eu aussi des belles choses, hein. Il n'y a pas eu que des combats. Et puis, peu à peu, on a mis en place différentes choses, des veillées d'adoration, les veilles de fête à Marie, des concerts spirituels et des vigiles familiales le samedi soir avec un apéritif partagé.
La chapelle est dédiée à Notre-Dame des Douleurs, donc c'est un lieu où Marie a accordé de nombreuses grâces depuis des siècles. Et aujourd'hui encore, de nombreuses personnes s'arrêtent et confient leurs souffrances à la Vierge. Et nous avions tous les deux à cœur de nous appuyer sur la prière d'intercession pour que le Seigneur puisse consoler, toucher les cœurs, en particulier à travers les charismes. On avait ça en nous. Alors en 2020, il y a eu le Covid, mais pas que ça. Pour nous, il y a eu surtout un nouveau départ dans la mission. Bon, le sacristain qui était chez lui dans la chapelle et qui était vraiment un frein à toutes nos initiatives a été remercié et nous avons pu vraiment investir les lieux librement et donner un nouveau souffle à la mission. Et on a vraiment été guidés par l'Esprit Saint parce que tout seul on n'y arrive pas. Voilà, l'Esprit Saint nous conduit toujours, même si on ne le voit pas, on le voit après. Hein. Et on a rencontré un prêtre pendant l'été 2020 qui a été vraiment l'instrument de la Providence et qui, et grâce à lui, on a pris les dernières places pour l'école des charismes. L'école des charismes dans le cadre du congrès mission. Alors c'était il y a un an à Paris et ça a été une formation, donc c'est un peu plus long que le congrès mission, c'est sur 4 jours, c'est une formation très riche, très dense, les journées sont très longues et on a des outils concrets pour mettre en place des choses, on a des conseils très pertinents, on a des rencontres aussi qui nous aident. Alors nous, c'était un peu particulier, on n'était que 2 du diocèse et on était envoyés par l'évêque. Tous les autres, ils venaient en paroisse ou en communauté et nous étions juste un couple. Alors, bon, on aurait pu se sentir un peu en décalage parce qu'on n'avait pas le profil, mais ça nous a fait prendre conscience de notre rôle en tant que couple dans la mission et dans l'Église. Parce qu'à nous deux, on pouvait avoir des projets, on pouvait faire des choses, on pouvait initier des processus. Et on n'avait pas à tout attendre du curé ou de la paroisse, ni même de l'évêque. Et en même temps, on se dit, c'est vertigineux, on se dit, mais on n'est que deux. Que nous, comment faire, que faire. Et puis on voyait bien aussi que si on ne faisait rien, ben, il ne se passerait rien. Et on sentait bien non plus qu'on ne pouvait pas faire tout seul. On ne peut pas tout porter non plus.
Surtout qu'il y a les enfants aussi. Donc, bon. Nous, dans le sillage de l'école des charismes, ce qu'on a voulu surtout éviter, c'est que le soufflet retombe. Parce que là, on était sur notre petit nuage pendant 4 jours, c'était super. Et puis un mois après, on est reparti dans le quotidien et en fait, c'est fini. C'était juste un bon moment. Et donc nous, on voulait surtout pas ça. On voulait pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour être sûr de pas se tromper. Donc on s'est dit le 7 décembre, puisque c'est la veille de la solennité de l'Immaculée Conception, ben, il faut qu'on fasse une veillée de prière pour les souffrants. Et donc on partait à peu près pas de zéro, puisque le congrès mission nous avait donné pas mal d'outils et de contacts aussi. Mais on a fait ce pas dans la foi. Et là, le Seigneur nous a pas laissé seuls, il nous a guidés concrètement. En 2 mois, donc, on a. Alors, c'était un moment aussi où il y avait un reconfinement, il y avait des couvre-feux, les célébrations qui étaient interdites puis limitées. Enfin, bon, c'était très incertain, en fait. Nous, on a essayé de persévérer, de maintenir coûte que coûte la soirée. Et puis, on a réuni un petit groupe de priants, supervisé aussi par une sœur des Béatitudes qui s'est trouvée sur notre route, un peu par hasard, en fait. Bon, le hasard n'existe pas, mais. Et puis c'était des personnes qui n'étaient pas très expérimentées avec les charismes en général, mais qui étaient heureuses de se mettre au service de la prière pour la mission. Et puis c'était aussi des personnes d'origine assez variée, voilà, un peu de mouvements différents ou même un peu tradis, voilà. Bon, donc c'était une belle image d'église. Et on a aussi eu la chance, enfin on a aussi trouvé un petit groupe de musiciens, ils sont que 3, mais qui guident la louange de façon très avec, ouais, c'est vraiment leur charisme, c'est vraiment très beau. Donc on a la chance d'avoir une musique de belle qualité, ce qui est très important. Et puis aussi des personnes qui sont des fidèles de la chapelle pour dire le chapelet avant la veillée, et aussi des personnes pour la logistique, parce que les premières veillées, moi j'arrivais, j'avais réglé plein de problèmes, par exemple logistique, j'étais pas du tout dans la prière pour pouvoir prier pendant la soirée, parce que c'était trop rapide de passer de l'organisation logistique à la prière. Voilà, donc le Seigneur, on se dit avec le recul, il nous a vraiment aidés, parce que vraiment, voilà, tout seul, ça paraissait impossible début octobre 2020 d'organiser ce genre de soirée.
Toujours à la suite de l'école des charismes, nous sommes en construction pour un autre projet, mais qui est plus souterrain, qui n'est pas visible trop pour l'instant. Elle vient du constat que dans 2 ans, nous quittons la mission. C'est normal, hein, c'est toujours à durée limitée. Et nous ne voulons pas que tout repose sur nous et que tout s'arrête le jour où on partira. Enfin, ce serait dommage. Et voilà. Et nous avons aussi sur le cœur de proposer la prière des frères à la fin de la messe, après la communion. Mais à nous deux tout seuls, ça n'a pas vraiment de sens. Pour nous, ça a beaucoup plus de sens si c'est porté par la paroisse. Alors là, c'est plus délicat, on bouscule les habitudes. C'est une paroisse rurale, enfin à côté de Tarbes, où il y a je ne sais pas combien de clochers. Donc on réfléchit avec les prêtres sur la vision de la paroisse, sur pourquoi on fait les choses. Le but n'est pas seulement de faire fonctionner une paroisse, mais c'est aussi d'accueillir toute personne et de lui permettre de faire l'expérience de l'amour de Dieu pour elle. Et puis ça pourrait aussi renforcer les liens entre paroissiens, parce que quand on prie ensemble et quand on prie pour d'autres, on ne vit plus les uns à côté des autres de la même manière. Alors ça, c'est en chantier. Voilà, on a rencontré le curé, le vicaire pour leur en parler. Ils nous ont proposé quelques personnes de la paroisse qui pourraient former un petit groupe de priants. Alors là, pareil, il y en a qui sont plus expérimentés et il y en a plusieurs qui ne connaissent rien du tout à la prière des frères, mais c'est aussi comme ça qu'on peut faire émerger des charismes et qu'on peut grandir dans la mission. Et voilà, donc c'est en cours, on va lancer la chose cette année, on va former les gens... une petite formation pratique et on va se lancer. Alors là, c'est pareil, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que les prêtres sont vraiment très heureux d'être bousculés ainsi. Ils nous encouragent à le faire, même s'ils disent que ce n'est pas du tout leur truc et qu'ils se sentent pas trop à l'aise avec ça, mais ils sont en tout cas très heureux et très touchés de ça. Voilà, c'est en route. Alors, s'engager dans la mission n'est pas un chemin facile ni simple, mais le Seigneur nous appelle vraiment à cela, pour chaque baptisé et pour chaque couple. Et ben, on expérimente. Enfin, bon, le but de la vie n'est pas la facilité et le confort, hein, c'est sûr. Mais si nous devions résumer ce que la mission apporte au couple, pour conclure... Nous dirions Dieu au centre et Dieu notre appui. Voilà, grâce à la mission, nous sommes toujours poussés à mettre toujours Dieu au centre, Dieu au cœur de notre vie et à nous appuyer toujours sur lui. Parce que, comme il le dit dans l'évangile de Saint Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021, table ronde.